Bien, puisque nous avons lu lors des veillées de jeudi et de vendredi le récit de la Passion dans l'Évangile selon Luc, eh bien c'est donc dans l'Évangile selon Luc que je vous invite à entendre le texte de ce jour au chapitre 24, les versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. » Et elles se souvinrent de ses paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie de Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elle. Elles le dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Pierre cependant se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Bien, n'en déplaise au titre de cette péricope que je vois inscrite sur cet exemplaire de la Nouvelle Bible Second, ce récit n'est pas le récit de la résurrection de Jésus le Christ. Il n'y a pas de récit de la résurrection de Jésus le Christ. Les évangiles, celui de Luc et les trois autres, ne livrent que des récits d'après. La pierre est déjà roulée. Le tombeau est déjà vide. Rien n'est écrit. Rien n'est imaginé de ce qui a pu se produire pour que ce tombeau soit vide. Seuls quelques évangiles apocryphes, qui n'ont pas été inclus dans le canon du Nouveau Testament, tentent de décrire la résurrection de Jésus. Ainsi, l'évangile de Pierre, dans un récit tout à fait extraordinaire, dont les images de puissance et de grandeur sont certainement impressionnantes, mais elles ont aussi pour effet de cantonner la résurrection du Christ dans le passé. Cela, c'est précisément, sagement et heureusement, ce que ne font ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean. Il n'y a que des récits d'après la résurrection. Et cet après, en quelque sorte, libère la résurrection et le ressuscité d'un ancrage temporel qui nous conduirait à célébrer aujourd'hui un événement du passé, un événement passé. Ce que la résurrection n'est pas. Célébrer Pâques, ce n'est pas célébrer un événement daté de l'an 33 environ. Célébrer Pâques, c'est affirmer que la résurrection, c'est aujourd'hui. Les évangiles comme récits ont été écrits après la résurrection, y compris les récits de Noël, y compris les récits de la Passion et de la mort de Jésus. Écriture d'après, ou pour le dire autrement, le point de départ des évangiles ne se tient pas dans le commencement des récits, mais plutôt à la fin. Ce qui commence, c'est qu'il est vivant, alors qu'il avait été mis à mort. Et cela permet de comprendre de cette manière que les évangiles ne sont pas des comptes rendus de la vie de Jésus, mais des témoignages de foi qui remontent de la résurrection jusqu'à la naissance de Jésus, enfin au moins pour deux d'entre eux. et ils font ce trajet à rebours parce que le Christ est ressuscité et que l'homme Jésus était le Christ. Les évangiles ne sont pas des preuves, car s'il y a des preuves, ce n'est pas la peine de croire. Savoir suffit. Et croire et savoir, ce n'est pas du tout la même chose. Cela ne fait pas vivre du tout de la même manière. Les évangiles sont des poèmes. Et un poème ne prouve rien. Il ouvre une possibilité à saisir dans un acquiescement souvent un peu fou et au risque de ne pas être cru par d'autres. Les évangiles sont des poèmes qui désignent, qui chantent, qui traduisent à leur manière, car il y en aurait et il y en a d'autres des manières, ils traduisent une compréhension, une révélation d'une expérience spirituelle de transformation de l'être et de la qualité de sa vie. Dans ses lettres, ses épîtres, Paul témoigne lui aussi de cette expérience et de ses conséquences, et il le fait tout autrement que les évangélistes. Par exemple, Paul n'évoque jamais le tombeau vide. Du ressuscité, il parle abondamment. Mais dans ses épîtres, il n'y a pas de tombeau vide. Paul connaissait pourtant Pierre et les autres disciples. Alors, évangile comme poème, résurrection sans tombeau vide, nous voici libérés de la nécessité de la preuve. D'autant plus que la foi n'est pas foi dans le texte même d'évangile, mais foi en celui auquel le texte d'évangile ou d'épître rend témoignage. Ne nous trompons pas. Et tout cela nous engage à lire ce matin le récit de Luc, en dehors de toute quête de preuves, et avec une lecture vraiment croyante, pour entendre ce que le texte donne à comprendre de cette résurrection. Et je vous propose d'y entrer à partir de l'annonce faite par deux hommes en vêtements brillants aux femmes venues prendre soin du corps du mort, du corps du crucifié. Et ces hommes en vêtements brillants disent « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité, réveillé. » Il n'est pas ici. Eh bien, quel est cet ici ? Bien sûr, dans le récit de Luc, il s'agit du tombeau. Et le tombeau, c'est le lieu des morts, le lieu de la mort. Mais il est quand même bien d'autres sortes de morts que la mort biologique. Il n'est pas ici, pas dans ce que le tombeau, les tombeaux, signifient. Il n'est pas dans ce qui enferme et étouffe. Il n'est pas là et quand l'amour, la justice, l'humain sont crucifiés et ensevelis par des appétits de pouvoir, des soifs de richesse. Il n'est pas dans les actions d'oppression et de prédation. Il n'est pas dans ces ordres imposés et incontestés qui ne sont souvent que des formes particulières du chaos. Il n'est pas dans ce qui tue, dans ce qui sert la mort, les morts. Il n'est pas ici. Il n'est pas alors non plus dans des définitions, ni dans des expressions, même de foi. Il n'est pas dans des dogmes, ni dans des ouvrages de théologie, pas plus qu'il n'est dans des mots humains alignés sur une page, même des mots très précieux, très rares, très beaux. Il n'est même pas dans la Bible, qui offre des images, des mots, des accents, des éclairages, des horizons, tout cela dépendant de la manière dont elle est lue et interprétée, et c'est parfois une manière tout à fait mortifère. Il n'est pas ici non plus, dans un temple, qui est seulement le lieu de rassemblement de tous ceux qui cherchent et qui ont à veiller que ce lieu ne devienne pas celui d'une quête de pouvoir. Il n'est pas dans le pain et le vin de la scène, qui ne sont toujours que pain et vin, qui font signe, oui, en étant partagés, mais surtout pas lieu de tri entre ceux qui en seraient dignes et d'autres qui ne le seraient pas. Il n'est pas dans les églises, ces institutions toujours tentées de se croire propriétaires de l'Évangile. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Et comme l'écrivait le pasteur Wagner, la résurrection est la réponse de Dieu à Vendredi Saint, la réponse de Dieu à la mise à mort de Jésus. C'est une réponse qui n'efface pas la mort, mais qui la surmonte et la dépasse. Et ce n'est pas une réponse en forme de punition ou de vengeance, mais une réponse en forme de don, à croire vraiment que Dieu ne fait pas autre chose que de donner. Donner la grâce et la vie. Donner des encore et des pourquoi pas et des malgré tout. Dieu ne demande ni ne se satisfait de la mort. Son œuvre est de créer, d'insuffler la vie. Pâques dit ainsi tout l'amour de Dieu pour le monde, sa volonté pour le monde, pour chacun et pour tous. Et les textes des évangiles, dans leur diversité, leurs poèmes, font parfaitement comprendre que la résurrection n'est pas un retour à la vie antérieure, mais une nouveauté qui ne répond pas à des critères biologiques ou physiques. Ce n'est pas l'homme Jésus qui est ressuscité, revenu à sa vie antérieure d'avant la croix. C'est le Christ, en tant que puissance vivifiante de Dieu, en tant que parole et acte de Dieu. L'homme Jésus qui était le Christ a manifesté par toute sa vie la vérité et la réalité de cette puissance, de ce don de Dieu. Il a montré par ses actes et par ses paroles que Dieu ne cesse de lutter contre le chaos, contre le mal, les injustices, le mensonge, la mort, en créant et recréant l'humanité de l'humain. Et c'est pourquoi c'est le huitième jour quand les femmes vont au tombeau. Parce que le huitième jour, c'est un nouveau premier jour, comme une reprise, une nouvelle création. La mort n'a pas eu le dernier mot. Il y a une puissance vivifiante qui la transperce. Et ce n'est pas un fait devant être prouvé, c'est une expérience spirituelle, un élan, une dynamique dont Pâques est le nom, un nom de libération, un nom de passage. Un nom d'avenir. Ainsi, les femmes sont-elles remises en route? Elles ne vont plus se consacrer à leur tâche de femme qui est de prendre soin du corps d'un mort. Elles ne vont plus pleurer. Elles ne vont plus se préoccuper des rites. Elles iront trouver des vivants et leur parler parce qu'elles se souviennent que c'est ce que Jésus faisait, montrait, et qu'il n'y a pas en elles seulement un souvenir, mais une dynamique, une poussée, un élan. Grâce aux paroles des hommes en vêtements brillants, elles se souviennent d'une vocation, d'un appel, d'un exemple, d'une parole. Elles se souviennent, pas dans une mémoire dormante comme l'eau d'un étang, mais dans une mémoire vive comme l'eau d'un torrent qui jaillit au présent pour y inscrire l'espérance. Marie de Magdala, Jeanne, Marie de Jacques et les autres femmes ont une nouvelle mission. Non plus l'embaumement du mort, mais l'annonce au vivant. Pâques est aussi une dynamique de parole, la simple parole, à la fois faible, car elle renonce à la force, et forte, car elle rebondit de siècle en siècle et de lieu en lieu, afin que la nouvelle se répande dans le monde, pour toucher les humains en manque de vie vivante. Les disciples ne croient pas les femmes. Faible parole, qui passe même parfois, oui, pour une niaiserie. Les premières apôtres connaissent l'échec. Alors ne nous affligeons pas trop des nôtres. Pâques est le nom d'une aventure de vie et de rencontre, pas celui de notre succès. D'ailleurs, Luc développe d'autres manières d'être rejoint par la résurrection, avec les disciples d'Emmaüs, avec Pierre et ceux qui étaient restés à Jérusalem, dans le livre des Actes avec Paul et d'autres encore. Il n'y a pas qu'un seul modèle, car c'est toujours aussi cela, Pâques. Non seulement la résurrection du Christ, mais toujours aussi celle de l'humain. Le Christ est ressuscité, c'est toujours l'annonce faite par une parole elle-même, par une personne elle-même ressuscitée. Comme les femmes allant embaumer le corps du crucifié sont ressuscitées en femmes porteuses de la bonne nouvelle. C'est aussi pourquoi Luc précise que non seulement les femmes se mettent en route vers le tombeau le huitième jour, mais qu'elles y vont tôt le matin, aux premières heures du jour, parce que c'est un jour tout neuf qui commence à peine. La nuit n'a pas vraiment disparu, mais il faut bien un entre-deux pour passer de l'un à l'autre, pour passer du jour à la nuit, pour passer du passé au présent. Pâques, c'est une aube qui indique que le jour qui vient est nouveau, et donc que le passé est passé, qu'il ne pèse pas sur le présent, ni sur l'avenir. Le passé reste dans le passé de nos vies, de nos erreurs, de nos errances, le passé de souffrance et de servitude. L'aube de Pâques n'indique pas une commémoration, mais une ouverture, un appel, une brèche vers un horizon lumineux, et le Christ est là, vivant et présent, en ceux qui passent la brèche, suivent l'appel. Il est là présent, mais pas contenu, pas enfermé, mais libérant, selon la volonté divine. Pâques est l'aube d'un jour nouveau, aujourd'hui. Tel est le sens de l'humanité de Pâques. Il y a plus que l'humain en l'humain. Il y a aussi le Christ. Oh, pas tout du Christ, mais le Christ quand même. Et nous en témoignerons tout à l'heure en partageant la scène. Car si le Christ n'est pas dans le pain et dans le vin, il est celui qui invite dans la communion, au repas, un repas de fête, un repas de mémoire et un repas d'avenir. Sa mémoire et notre avenir en lui. Et pas seulement le nôtre en tant que personne, mais l'avenir du monde, tant il est vrai que nous signifions à la scène, par le cercle et par le partage du pain et du vin, par la prière et l'écoute, que le monde que nous voulons et pour lequel nous travaillons avec lui, avec le Christ, est un monde dont personne n'est exclu, un monde où personne ne manque de pain, ni de parole, ni de fraternité. Un monde où l'on ne classe ni les premiers ni les derniers. Nous ne célébrons pas le passé aujourd'hui, ni aucun dimanche. Nous célébrons la présence du Christ vivant. Alors que retentissent les bruits de guerre, les cris de haine, les mensonges des uns et les contre-vérités des autres, alors que la vénération de figures du passé prend la place de la pensée, de la responsabilité, nous célébrons aujourd'hui qu'en Christ, nous ne soyons pas condamnés à subir l'échec, ni à désespérer de ce qui est et de ce qui vient. Le cri de Pâques, il est ressuscité, c'est un cri d'engagement, un cri de présence, nos présences engagées dans le monde et dans l'aventure d'un avenir qui n'est pas écrit. Le Christ ressuscité est celui qui invite à sa table, abondamment pourvu de vie et d'amour, là où se partage la paix, là où coule la joie. Le Christ est ressuscité. Et c'est chaque fois qu'une personne abattue par une injustice, une oppression, un échec, une rupture qui l'empêche de mener une existence pleinement humaine, chaque fois que cette personne est relevée. Le Christ est ressuscité et c'est chaque fois qu'une personne endormie, anesthésiée dans des habitudes, des routines, des rites qui n'ont plus de sens, ou par des mensonges et des manipulations qui l'empêchent de penser, de choisir par elle-même, quand cette personne est réveillée. Être relevé, réveillé, ressuscité, vivre d'une manière nouvelle, passer d'une qualité de vie à une autre, Pâques n'est pas un fait du passé, mais une réalité d'aujourd'hui. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Ce n'est pas la formule pour se souvenir d'un antique événement, mais c'est la proclamation de la puissance vivifiante pour le présent, pour la vie de chacun. C'est le sens de l'humanité de Pâques. Il y a plus que l'humain en l'humain. La révélation en plénitude de Pâques est que le Dieu de Jésus-Christ est Dieu contre la mort, Dieu de la vie, pour la vie de chacun, une dimension et une qualité de vie qui investissent et transcendent la vie naturelle pour lui donner sa vérité et sa beauté en vie ressuscitée. Amen.